Bonjour Cécile Vignel.
Bonjour.
Alors, vous avez étudié les conséquences de la délocalisation d'une usine sur la mobilité, ou au contraire l'immobilité résidentielle des salariés. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi certains décident de déménager pour conserver leur emploi, alors que d'autres y renoncent ?
Oui, alors effectivement, au début des années 2000, il y a près de 20 ans, j'ai suivi la fermeture d'une usine de câbles qui se situait en Picardie et qui avait proposé la délocalisation de l'emploi aux 300 salariés à l'époque. Et les salariés ont dû choisir, en quelque sorte, sous la contrainte, entre accepter la mutation à 200 km, c'était dans une petite ville de Bourgogne, ou la refuser et être licenciés. Alors de cet exemple, les résultats, les décisions des salariés et puis surtout le suivi avec l'enquête de terrain de leur logique, de leurs choix et de leurs aménagements une fois les choix réalisés, montrent le poids en fait de rationalités qui ne sont pas que économiques et professionnelles dans leurs décisions. Donc parmi tous ces salariés, près des trois quarts, 73%, vont être licenciés au final, vont donc refuser la mutation, et un petit tiers, presque un quart, va être muté à 200 km. Alors si on regarde qui sont ces licenciés et pourquoi ils font ce choix, déjà ce sont des licenciés qui sont plutôt du milieu ouvrier, donc c'était une usine principalement d'hommes ouvriers en 3-8 donc postés, qui avaient une forte ancienneté, 20 ans, donc stabilisés dans une logique patronale assez classique, et qui, face à ça, se retrouve soit dans des capacités professionnelles de reconversion, dans le bâtiment, dans les travaux indépendants, dans le savoir-faire technique qu'ils avaient acquis, soit ont refusé la mutation et se sont retrouvés à protéger en réalité d'autres éléments que leur emploi proprement dit, c'est-à-dire le cadre familial et la propriété du logement. Et une fois que j'ai interviewé deux années de suite ces salariés, on voit que l'ancrage résidentiel et familial était très important. D'une part parce que leurs ressources familiales étaient liées à un emploi de la conjointe souvent, mais aussi à l'entraide du réseau de parenté qui était très, très important. La majorité de ces ouvriers qui étaient nés dans le département avaient aussi leur réseau de parenté sur place. Ils appartenaient à ce que les démographes appellent une famille entourage, et même une famille entourage locale, c'est-à-dire que des gens proches que l'on voit régulièrement et avec lesquels il y a un système d'entraide qui était important. Surtout, ils étaient souvent propriétaires, et les risques de la délocalisation leur semblaient plus grands en fait que le fait de rester sur place. Et inversement, si on regarde ceux qui sont partis, ils étaient plus qualifiés quand ils étaient ouvriers ou sinon ils étaient techniciens. C'était plutôt des hommes que des femmes, salariés. Et puis, ils étaient plus jeunes, avec des enfants plus en bas âge ou carrément célibataires et où les contraintes de la délocalisation étaient moins fortes. Mais quand même pour eux, il y a eu tout un système d'arrangements familiaux pour organiser ce déplacement, parce que certaines familles se sont dédoublées, en quelque sorte, dans un système de double résidence, et elles ont refusé la mutation définitive. Donc les hommes, souvent, se retrouvaient à faire des allers-retours chaque semaine, et à vivre une vie qu'ils appelaient de célibataire géographique, qui était très compliquée à tenir. Alors, pour mesurer pourquoi c'est rationnel, malgré tout, d'être resté dans un contexte où il y avait un taux de chômage très élevé, et c'est toujours le cas en Picardie, dans les Hauts-de-France, et pour, a fortiori pour les milieux ouvriers, c'est que j'ai retrouvé 8 ans à 9 ans après ces salariés, par une deuxième enquête, et les résultats là sont assez contre-intuitifs, c'est-à-dire que là où on aurait voulu retrouver chez les mutés plus de stabilité professionnelle, plus de trajectoire sociale ascendante, en fait on n'en retrouve pas plus que chez les salariés licenciés, car une moitié d'entre eux aura été soit à nouveau, eux-mêmes licenciés par l'entreprise qui les avait délocalisés, soit ils auront démissionné, abandonné à force d'épuisement ou de coûts économiques et familiaux liés à ce déplacement. Et puis inversement, chez les licenciés, il y a eu des trajectoires stabilisées, voire même réussie, de reconversion réussie, de sortie de l'industrie. Et puis, évidemment, une majorité, enfin une bonne moitié de salariés qui subit la précarité, voire un chômage durable, d'exclusion, notamment les femmes, les ouvrières, les moins qualifiées. Donc en fait, ça montre qu'il n'y a pas, sur cet aspect très monographique sur une usine, il n'y a pas de relation univoque entre mobilité géographique pour l'emploi et emploi ou protection contre le risque de chômage. C'était le cas à l'époque, et puis c'est toujours le cas en fait dans toutes les restructurations que j'ai pu suivre de loin dans ces situations. C'est beaucoup plus complexe que la simple injonction à suivre un emploi qui apparaît comme stable au départ.
Donc cette recherche date des années 2000 et puis vous venez de vous l'expliquer, vous y êtes retourné depuis. Mais selon vous, les injonctions professionnelles à la mobilité géographique se sont-elles renforcées en général ces 15 dernières années? Est-ce qu'elles ont changé?
Oui. Alors, les 15 ou voire les 20 dernières années, du coup, je pense que oui, d'une certaine manière, la tendance à l'accentuation des mobilités géographiques pour l'emploi se confirme. En tout cas, ce qui se renforce clairement depuis 20 ans, c'est un marché du travail segmenté, dualisé, à deux vitesses, entre ceux qui sont aux marges de l'emploi stable, qui subissent des taux de rotation de plus en plus élevés. Alors là, pour le coup, les statistiques montrent très clairement une augmentation forte des changements de situation, des fins de contrat, des ruptures, etc. Et pas que dans le cadre exceptionnel, je dirais, des licenciements collectifs et des plans de restructuration. Donc on a une multiplication de ces situations, et a fortiori pour les milieux ouvriers et employés qui connaissent des mobilités spatiales plus fréquentes et surtout sous un angle plus contraint. C'était déjà le cas il y a 20 ans et ça s'est confirmé. Un autre élément peut-être qu'il faut, pour le dire autrement, c'est que il me semble que depuis 20 ans, ce qu'on observe à travers les mobilités géographiques pour l'emploi, c'est plus des mobilités d'adaptation au marché du travail, à des emplois qui sont plutôt de mauvaise qualité, qu'à un bon marché du travail qui serait efficient et offrirait à travers ces mobilités géographiques, des trajectoires stabilisées pour l'emploi. En gros, pour le dire vite, plus on voit de la mobilité spatiale sur le marché du travail, plus on pourrait imaginer que c'est corrélé à de la mauvaise qualité de l'emploi, en tout cas pour les milieux populaires. C'est pas forcément le cas pour les cadres ou les plus qualifiés. La deuxième argument, je trouve que depuis 15-20 ans, ça c'est confirmé plutôt par l'aspect politique public ou le droit à la législation du travail, qui était fortement dérégulé, et les 10 dernières années en particulier l'ont confirmé, c'est-à-dire que la réforme du Code du travail et les lois de travail successives ont permis aux entreprises d'imposer, dans le cadre des accords avec les partenaires sociaux, aux salariés, à des individus, des accords collectifs de mobilité qui changent en fait le contrat de travail, ou plutôt qui empêchent l'individu d'aller contester le changement de lieu d'activité. Donc ce que moi j'ai observé sous l'angle des restructurations, des licenciements collectifs, a sans doute un peu disparu parce qu'on a permis par les accords collectifs plus récemment et puis par les ruptures conventionnelles en fait d'individualiser cette négociation sur la mobilité spatiale de l'emploi. Et puis en termes de politique publique, là on est rentré dans une longue période de consensus politique où les politiques publiques d'aménagement du territoire comme celle de l'emploi visent à restaurer, à réduire les inégalités sociales face à de mobilité, donc à rendre effectif un droit à la mobilité. Alors c'est clair sur la politique de l'emploi, vous l'avez peut-être montré dans d'autres vidéos d'ailleurs, différentes politiques publiques qui aident à passer des permis, à subventionner des déplacements, etc. Bon, ça c'est une chose, donc ça augmente potentiellement les périmètres ou les possibilités d'élargir l'espace de la recherche d'emploi. Mais en termes d'aménagement du territoire, les politiques de métropolisation, elles vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'elles ont fait rupture avec des logiques où on va déplacer les lieux, les établissements, les entreprises, les lieux d'activité vers les espaces de main-d'œuvre, mais au contraire, on va inciter les individus par la mobilité résidentielle à les rapprocher des zones d'emploi actifs, soit par le déménagement, donc, soit par le déplacement quotidien. Et donc toutes ces politiques publiques, elles vont dans le même sens que c'est l'individu qui doit faciliter le fonctionnement du marché et pas les protections du salariat ni les localisations de l'entreprise en elle-même. Donc voilà, les coûts sont plutôt portés par l'individu, par les individus. Et du coup, au final, moi, je dirais que depuis 15-20 ans, on est arrivé à des situations paradoxales où la norme là, de mobilité, elle est acquise par tous, elle est acquise par les gens eux-mêmes. On n'est pas du tout dans une époque où les gens auraient des aversions contre les déplacements de manière culturelle ou a priori. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc c'est ça le paradoxe, c'est qu'ils sont en situation d'injonction paradoxale. Ils n'ont plus les moyens collectifs, sociaux et même spatiaux de déplacement vers des bassins d'emploi qui sont eux-mêmes saturés. Donc, si on regarde, bon, je vais prendre l'exemple de l'agglomération lilloise dans laquelle je travaille maintenant, l'effet de métropolisation a fait des effets structurels de concentration de l'emploi, de surélévation des prix immobiliers qui sont devenus complètement déconnectés des niveaux de salaire et des dynamiques de salaire et a fortiori des milieux ouvriers et employés, qui fait que les contraintes structurelles sont telles que même accéder à la métropole aujourd'hui est rendu de plus en plus difficile pour des ménages qui viendraient par exemple de Picardie précisément ou du sud ou d'autres régions plus rurales. Donc faiblesse des salaires, pauvreté, concentration de l'emploi, prix immobilier, tout ça, ça fait un effet structurel qui dépasse de beaucoup les capacités de simple mobilité des individus dans l'espace et sur le marché du travail. Donc, bon, voilà, moi, je trouve que depuis de 15-20 ans, on focalise beaucoup sur les capacités individuelles à la mobilité et peu sur les effets structurels du marché, faisant fi, en fait, de ce qui se passe, qu'un recrutement, il se passe d'abord pour et par les qualités de l'individu et de la relation avec un employeur. Et c'est pas uniquement ou pas seulement la question de la mobilité qui viendrait réduire ces difficultés d'emploi.
Ok, alors vous avez mené depuis, avec vos collègues du collectif Rosa Bonheur, une recherche sur le quotidien des classes populaires situées aux marges du marché du travail. En quoi ces populations nous invitent-elles à penser différemment, justement, la question du droit à la mobilité et ou à l'immobilité ?
Oui. Alors, donc avec le collectif Rosa Bonheur, c'est un collectif de sociologues de l'Université de Lille et associé avec un géographe urbaniste de Paris-Est. On a travaillé justement sur une enquête ethnographique depuis 2011 sur des milieux, des classes populaires, des familles issues toutes d'une même ville, Roubaix, qui a un territoire désindustrialisé s'il en est. Et on s'est intéressé à leur vie quotidienne en regardant les choses non pas en creux, en négatif, mais en plein et depuis leur point de vue, en s'intéressant à savoir comment dans un espace aussi relégué et déclinant, enfin qui a depuis longtemps vu le capital et l'emploi salarié, ouvrier, employé disparaître, comment on survit, comment on s'organise. Alors ce qu'on montre dans notre ouvrage final de cette recherche, c'est que les gens bien travaillent, mais ils travaillent sous des formes multiples qu'on a regroupées sous le terme de travail de subsistance, c'est-à-dire qu'ils doivent organiser une vie entre des emplois salariés lorsqu'ils y ont accès, souvent à temps partiel ou peu rémunérateur, avec des activités qu'ils pourraient autoproduire, des activités indépendantes qu'ils peuvent réaliser sous le statut d'auto-entrepreneur ou de manière informelle, et puis aussi avec des formes de travail non pas seulement domestiques, mais d'organisation d'autoproduction, des besoins de la famille ou de leurs propres besoins, se loger, réhabiliter son logement, produire de l'alimentation, des repas, produire un système, les ressources nécessaires à l'éducation, à la santé, à l'entretien des autres, des personnes âgées de sa famille par exemple, ou des plus jeunes. Bref, un système qui met en jeu femmes et hommes, pas sur les mêmes espaces et pas dans un rapport d'égalité, loin de là, mais quand même sur une forme d'économie de subsistance propre à cet espace populaire. Et ce qu'on montre, c'est que ce travail de subsistance, et c'est là où je reviens sur la mobilité, c'est qu'il se déploie dans un espace de proximité, c'est-à-dire dans la rue, dans la maison, dans le parking, etc. Ce sont ces espaces où on est dans une forme d'interconnaissance, où les liens sociaux et les liens familiaux sont forts, il y a une forme d'affiliation, voire de suraffiliation, mais qui produit de la ressource, qui peut être économique, qui peut être matérielle, qui peut être morale, et qui est nécessaire en fait à la subsistance quotidienne. Pour le dire autrement, l'ancrage permet pour ces ménages qui sont aux marges du marché du travail, aux marges du salariat, de subsister et de remplir des besoins qui sont sinon pas remplis par le marché, ni par le marché du travail, ni par les revenus d'assistance qui ne suffisent pas à s'en sortir. Vivre au RSA, ça suffit pas. Il faut d'autres ressources, soit d'autres biens qu'on récupère gratuitement, soit d'autres systèmes d'entraide. Donc c'est ça, cette idée, c'est que l'ancrage, il va constituer une forme de produit et de condition à cette condition, à cette vie des milieux populaires aux marges du marché du travail, et que, en quelque sorte, c'est plus efficace que de simplement se déplacer pour répondre aux enjeux du marché et de l'emploi. Plus efficace au sens où ça remplit plus de besoins que le simple besoin de travail et de récupération d'argent qui est nécessaire pour tous, mais qui ne suffit pas à remplir tous les besoins. Alors on a plein d'exemples de femmes ou d'hommes qui remplissent des besoins, qui sont par exemple l'entraide vis-à-vis de parents âgés, qui sont chez les classes moyennes, moyennes supérieures, monétisées en employant un salarié de service à la personne et qui va le faire pour soi-même. Dans ces milieux populaires pauvres, on n'a pas le choix. On doit le faire pour les siens, pour les proches. Du coup, effectivement, il y a des formes de protection comme ça, d'organisation d'une économie qui est fondée sur des liens économiques, mais aussi des liens de réciprocité, les deux à la fois. Donc voilà, en fait, ça montre que l'ancrage, c'est pas un ancrage d'assistés ou de travailleurs pauvres qui seraient tombés dans des trappes à immobilité. C'est pas que ça. C'est qu'ils remplissent aussi des fonctions économiques, sociales, morales et familiales. Pendant ce temps-là, en fait, les femmes qu'on a suivies, par exemple, elles ont des emplois du temps qui sont surchargés, correspondraient au niveau des femmes très qualifiées du tertiaire de la ville de Lille, par exemple, à côté. Donc voilà, on essaye de requalifier en fait ces formes d'ancrage. Alors, cet espace qui est Roubaix, on le nomme, on le regarde comme aussi une condition à cette existence là, et on montre que ce n'est pas qu'un espace d'ancrage malgré tout, parce que tous se déplacent souvent, alors avec des échelles différentes, avec des capacités de déplacement différentes, automobiles ou pas. Mais en fait, tous ont des grandes, soit ont des aspirations à la mobilité, soit la réalisent, soit par des migrations, par exemple dans le pays d'origine lorsqu'ils sont immigrés, soit par des déplacements vers la Belgique toute proche pour se subvenir à des besoins, avoir accès à des biens peu chers ou bien aller travailler, comme c'est le cas aussi pour des salariés. Bref, il y a les jeunes en particulier ont un système de mobilité, notamment pour l'accès à la formation à l'université, qui les fait sortir systématiquement de la ville. Alors, bref, toute la logique qui consisterait à dire ancrage résidentiel égale immobilité quotidienne, c'est faux. Mais par contre, il y a de fortes contraintes autour de l'automobile, en avoir une ou pas, la faire réparer ou pas, étant un enjeu central, et avoir l'essence pour la faire rouler, étant un enjeu quotidien, Et c'est d'ailleurs pour ça, pour faire la boucle avec le travail de subsistance, qu'on a observé beaucoup de mécaniciens de rue dans cet espace, parce que le coût de la réparation est tel, de l'entretien, que cette activité informelle s'est développée ici, comme en région parisienne et dans d'autres espaces populaires, ces 20 dernières années. Et ça existait déjà du temps des... Du temps des années 60-70 et des usines, mais ça s'est fortement développé à mesure que le travail ouvrier masculin a disparu.